France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien un neuropsychiatre dont la voix est familière aux auditeurs de France Inter. Il publie un ouvrage collectif intitulé « Préparer les petits à l'école maternelle ». C'est chez Odile Jacob. On va en parler évidemment. Vous pourrez dialoguer avec lui dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Boris Cyrulnik.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'un Et c'est une information inter, le président de la République va vous confier cette semaine une mission sur les 1000 premiers jours de vie, là où tout commence. Une mission donc sur les bébés, sur les tout-petits, sur les enfants avant leur entrée en maternelle. Ces 1000 premiers jours sont une période cruciale pour eux, on va le voir. Mais on a l'impression aussi que l'objet de votre mission, Boris Cyrulnik, c'est de s'occuper également des parents. Alors dites-nous quelle est la philosophie exacte de l'entreprise. Est-ce que vous allez créer une école des parents?
Oui, absolument. On peut le dire comme ça. C'est pas facile d'être parent. Il y a des méthodes, il y a des compréhensions qui permettent de modifier la manière de s'occuper des bébés préverbaux. 1000 jours, c'est juste avant la parole. On est la seule culture en Occident à faire naître la psychologie le jour de la naissance. Toutes les autres cultures, surtout les cultures asiatiques ou même africaines, le jour de la naissance, c'est le premier anniversaire. Et c'est bien vu parce que le développement du corps de l'enfant se fait dans le ventre des femmes, mais déjà le développement du système nerveux est déjà soumis aux pressions du milieu. C'est-à-dire que si la femme enceinte est sécurisée, le bébé va se débrouiller. Si la femme enceinte est insécurisée, le bébé va prendre une partie de l'insécurité maternelle.
Oui, c'est ce que vous racontez notamment dans votre livre. En quoi, si on rate ces 1000 jours, le reste de sa vie peut en être affecté?
Ça peut être affecté si on fait rien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait que les enfants, les bébés préverbaux, n'avaient pas de vie psychique. Et s'ils étaient des mal partis dans l'existence, eh ben, tant pis, c'était le destin. Or maintenant, on se rend compte que la plasticité cérébrale, psychologique, sont telles que c'est très facile à rattraper. Un bébé est très facile à blesser. Le bébé est très facile à rattraper. Donc ça veut dire qu'on rattrape le bébé en réorganisant le milieu. Non seulement la mère, bien sûr, puisque statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Hein, donc, non seulement le milieu, mais le milieu qui entoure la mère. C'est un raisonnement systémique. C'est-à-dire que c'est plus une cause qui provoque un effet. Cet enfant est mal parti parce que son cerveau est de mauvaise qualité. C'est un raisonnement presque raciste. Hein, il est de moins bonne qualité que les autres, donc il n'y a rien à faire, c'est la nature. Or nous, ce qu'on propose, ce qu'on défend, parce qu'il y a des milliers de publications neurologiques, biologiques et sociologiques qui montrent que la plasticité est telle que si on répare l'environnement du bébé, la plupart des bébés reprendront un bon développement.
Éduquer les enfants, l'idée semble aller de soi, Boris Cyrulnik. Éduquer les parents pendant ces 1000 jours, ça veut dire quoi exactement?
Pendant très longtemps, ou quand j'étais gamin, un bébé était considéré comme un tube digestif, c'est-à-dire qu'on mesurait les ingestas et les excrétas. Et si le bilan était positif, on disait que le bébé se développait bien. Or maintenant, on raisonne de manière très différente et il y a une sémiologie, c'est-à-dire une étude des signes, des petits comportements, des cris, des postures, qui permettent de décoder très facilement si un bébé est bien ou s'il n'est pas bien.
Et ça, les parents n'ont pas les clés de lecture, dites-vous, pas nécessairement.
Les parents peuvent facilement l'apprendre avec les théories de l'attachement, mais la plupart du temps, on est tous soumis aux représentations sociales. Aux stéréotypes sociaux. Si un bébé se développe mal, si les stéréotypes sociaux disent que c'est qu'il est de mauvaise qualité, eh bien on va répondre à la représentation et on va être malheureux et on va dire, ben voilà, on a mis au monde un bébé de mauvaise qualité.
Comment on se protège contre ces stéréotypes sociaux?
Par l'explication, par le partage du savoir des découvertes récentes de 15-20 ans en neurobiologie et en neuroimagerie, qui démontre que parler à un bébé, c'est stimuler les zones cérébrales correspondantes. Alors, c'est une stimulation neurologique. Sécuriser un bébé, c'est stimuler le circuit limbique, c'est-à-dire des anneaux à la face profonde qui sont le socle neurologique des émotions et de la mémoire.
Mais en quoi cela, ce que vous nous dites ce matin, est du ressort de l'État, de l'action publique, puisqu'Emmanuel Macron veut que ces 1000 premiers jours deviennent une priorité de l'action publique. Pourquoi c'est le rôle de l'État ?
Parce que on n'est pas des Indiens. Les Indiens ont trouvé des solutions confirmé par la neurologie. Mais eux, ils ne l'ont pas trouvé par la neurologie, ils l'ont trouvé par sélection, élimination. Ils ont constaté, par exemple, un bébé prématuré, quand j'ai travaillé en Colombie, les Indiens avaient mis au point la méthode kangourou, c'est-à-dire quand un bébé était prématuré, et beaucoup de bébés étaient prématurés en Colombie, ils redeviennent beaucoup, très souvent prématurés en France, parce que les conditions d'existence ont changé, eh bien, ces bébés-là, chez les Indiens, ils sont enveloppés contre le corps de la mère et contre le corps du père, et ils obtiennent pratiquement les mêmes résultats que nous, avec nos couveuses techniques. Mais ça, ils ont un autre savoir que le nôtre. Or, il faudra bien que le gouvernement prenne les dispositions pour que cette enveloppe sensorielle qui entoure les bébés nécessite une intervention de l'État. Il faudra parler du congé parental, il faudra parler de la crèche, il faudra parler des nouvelles interactions avec les bébés. Tout ça, c'est l'État qui va prendre des décisions.
Une question factuelle pour poursuivre notre entretien, Boris Cyrulnik. Combien de temps va durer votre mission quand devez-vous rendre un rapport éclairer l'action publique ?
Alors, ça, c'est un problème. C'est que j'ai peur que le rapport, on doive le remettre à la mi-janvier.
C'est trop court ?
Quand on me pose une question à un scientifique, il dit « je répondrai dans 2 ou 3 ans ». Et là,
il y a un petit juste milieu, peut-être.
Et là, on a 4 mois et demi, mais c'est pas grave parce que cette commission va pas être une commission scientifique. Ça va être une commission de scientifiques. Les travaux sont déjà faits. On va donc les rassembler, hiérarchiser les réponses et les fournir à l'État.
Est-ce que vous avez hésité quand Emmanuel Macron vous a demandé de présider cette mission-là ? On dit souvent que les personnalités de la société civile, quand elles s'approchent du pouvoir, elles deviennent des cautions ou des objets, elles perdent de leur liberté. Est-ce que vous n'avez pas eu peur ou est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas pouvoir tout dire ?
On dira pas tout, c'est impossible. On dira pas tout. On dira quelques priorités, les priorités fondamentales. Alors non, j'ai pas hésité du tout parce que c'est une chance inespérée de faire vivre les théories de l'attachement qui intègrent la neurologie, la psychologie et la sociologie. C'est la principale théorie intégrative, alors que jusqu'à maintenant, on a des théories qui séparent. Est-ce que c'est neurologique ? Mais non, madame, c'est psychologique, sûrement pas, c'est social. Or là, on a une théorie qui intègre et qui montre comment une métamorphose de la condition sociale modifie le développement du cerveau des enfants. Et ça, c'était une occasion inespérée de le faire vivre.
Et réduit les inégalités à terme, puisque c'est ça l'idée.
Voilà, et l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est... Alors ça aussi, ça a été photographié et chiffré. Lorsque des enfants sont en difficulté sociale, quand ils se développent dans un milieu en difficulté, la mère est stressée, le père est stressé, le milieu fonctionne mal parce que les grandes causes de troubles du développement d'un bébé, c'est l'isolation de la mère, c'est pas l'isolement. L'isolement, on peut le souhaiter. L'isolation, c'est une agression. C'est la violence conjugale. On a sous-estimé l'importance des dégâts cérébraux chez le bébé provoqués par la violence conjugale. Et c'est la précarité sociale. Donc l'État doit intervenir. C'est pas nous, les neurologues, qui allons modifier ça. Or, on sait maintenant que quand l'État intervient, ce qui a été fait dans les pays d'Europe du Nord et dans d'autres pays, au Canada, quand l'État intervient, l'enveloppe sensorielle autour de l'enfant est plus stimulée, son cerveau se développe mieux. Et c'est pour ça qu'il fallait une discipline intégrative.
Vous l'avez dit, Boris Cyrulnik, dans le cadre de cette mission, vous aurez à réfléchir sur les différents congés maternité, paternité, parental. En France, le congé maternité est de 16 semaines et le congé paternité de 11 jours, et il est facultatif. 11 jours, ça nous place entre la Slovénie et la Bulgarie, loin, très loin derrière la Norvège. Est-ce que vous réfléchissez à allonger le congé paternité à, je sais pas, 3-4 semaines et à le rendre obligatoire ?
Alors, on va faire des propositions, et c'est le gouvernement qui décidera. Donc ce qu'on va très probablement proposer, c'est d'allonger le congé parental, c'est-à-dire la mère, bien sûr, et le père, et le couple s'entendra. Alors en Finlande, ou dans d'autres pays, le congé parental est de 1 an. La plupart du temps, la majorité, c'est les femmes qui choisissent de rester à la maison, mais la courbe des hommes qui choisissent de rester à la maison est une courbe rapidement montante. Je ne sais pas ce que décideront les couples, je ne sais pas ce que décidera le gouvernement, mais idéalement, les 1000 premiers jours, c'est-à-dire juste avant l'apparition de la parole, parce que lorsqu'un bébé accède à la parole, il y a une mutation, les déterminants changent, les déterminants deviennent des récits, deviennent des mots, alors qu'avant les déterminants sont des touchés, la sensorialité, les sourires, la nourriture, donc les déterminants changent. Et on sait que maintenant, ces mille premiers jours sont fondamentaux pour que nos enfants soient bien partis dans l'existence.
Vous dites que vous espérez un congé parental en France d'un an, comme en Norvège ou en Finlande. Ça semble quand même pas très bien parti, d'autant qu'on sait qu'il y avait une proposition il y a quelques mois de la Commission européenne pour allonger le congé parental. La France a été contre cette proposition-là. Emmanuel Macron a dit « c'est une belle idée, j'en approuve les principes, mais ça coûte très cher et c'est insoutenable ». Alors vous allez lui dire quoi là, sur le congé parental? Comment vous allez le convaincre qu'il faut l'allonger et le rendre obligatoire?
On va lui montrer des photos de développement cérébral. Pour gagner un peu d'argent, on va abîmer des populations entières de bébés. C'est lui qui va décider. Oui. On va lui montrer comment, si on organise bien, affectivement, comportementalement et socialement, l'enveloppe sensorielle d'un bébé, la plupart de ses enfants vont être des bien-partis dans l'existence. En Suède, en Finlande, où j'ai été invité, 1% des enfants deviennent illettrés. En France, on est, selon les chiffres, entre 12 et 15%. Un illettré, c'est quelqu'un qui est malheureux et qui coûte terriblement cher à la société. Les Norvégiens ont fait ce qu'ils appellent de la phrase cynique de retour sur investissement. Mettre de l'argent sur les bébés, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire que...
Vous allez lui expliquer qu'il y a un business plan derrière le cerveau des bébés, qu'il faut mettre de l'argent.
On va donner la parole aux auditeurs et auditrices de France Inter. Ils sont très nombreux ce matin pour dialoguer avec vous. Boris Cyrulnik, commençons avec Clara. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour. Merci Monsieur Cyrulnik pour vos travaux sur la résilience et le psychose. Moi, je voulais vous poser la question de votre avis sur la présence paternelle, la présence d'un homme qui serait a priori, selon M. Retailleau et selon les détracteurs de la PMA, pour toutes, indispensable au bon développement de l'enfant. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux qui a montré que l'absence patriarcale, l'absence d'un père, l'absence d'un homme dans la vie d'un enfant avait un impact néfaste sur son neurodéveloppement. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de scientifique ou c'est pas plutôt une vision patriarcale de la société qui veut que seule une femme, seul un homme pourrait contribuer au bonheur d'un enfant.
Merci beaucoup, voilà. Clara, pour cette question. Boris Cyrulnik va vous répondre. Boris Cyrulnik, qui est au micro d'Ali Badou sur France Inter, il y a quelques mois, a déclaré, en citant Jean-Paul Sartre, « N'ayant pas eu de père, j'avais toutes les libertés. » Je fais cette précision et je vous laisse répondre à Clara.
Non, il y a des travaux scientifiques, notamment Elisabeth Fivaz à Lausanne, mais entre autres, ont montré que la présence du père joue beaucoup plus tôt dans le développement psychique de l'enfant, même pendant la grossesse de sa mère. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un père? Alors, une mère, on sait à peu près ce que c'est, mais le père, ça dépend étonnamment des cultures. Même dans notre propre culture, le mot père désignait des statuts d'hommes étonnamment différents. Il y a des cultures africaines, encore, aujourd'hui, où c'est le frère de la mère qui est considéré comme le père, alors qu'en France, on l'appelle oncle. Donc ça dépend, et puis dans notre propre culture, monsieur, c'est la contraction de monseigneur. C'est monseigneur l'homme, monseigneur le père. Allez dire ça aujourd'hui, ça marche moins bien aujourd'hui.
L'oncle, on dit que c'est le père sans le pire.
La présence du père, si le couple parental fonctionne bien, est un sécurisant pour la mère. C'est-à-dire qu'elle, elle se débrouille et le bébé se débrouille. C'est-à-dire que déjà, dès le début de la grossesse, on pense maintenant qu'il faut faire des enquêtes avant même la conception. On sait que le champ sensoriel qui est organisé par la mère et par le père structure l'enveloppe autour du bébé qui va tutoriser les développements cérébraux.
Avant même la conception, vous dites ?
Avant la conception.
Ils en sont au stade du flirt, l'homme et la femme.
Quand ils en sont au stade du désir dans le regard.
Ah, du désir dans le regard. Mais vous n'avez pas répondu à Clara sur les couples de femmes qui auront bientôt, dans quelques mois, la possibilité d'avoir des enfants.
Alors, j'étais en train de préparer ma réponse, là, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'il y ait deux. Parce que s'il y a un, l'enfant est prisonnier de l'affection. S'il y a deux, alors le père, ça peut être, statistiquement c'est un homme, mais ça peut être la grand-mère. Quand une femme élève son enfant avec sa propre mère, ce qui n'est pas rare, l'enfant d'abord a une base de sécurité qui est le corps de sa mère, et très rapidement il apprend à aimer quelqu'un d'autre que sa mère. Son monde mental s'ouvre. Alors la grand-mère joue le rôle du père. C'est-à-dire que si deux femmes s'occupent d'un bébé, il y en a une des deux qui aura la fonction paternelle, même si c'est deux femmes. Si une femme élève un bébé avec un autre homme que celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate métaphore, l'homme qui n'a pas planté l'enfant aura une fonction paternelle. Ce qui compte, c'est d'ouvrir le champ sensoriel de l'enfant pour qu'il apprenne à aimer sa mère et quelqu'un d'autre. Parce que sinon, il est prisonnier de l'affection de sa mère. D'abord, c'est la lune de miel, et à l'adolescence, c'est la haine. C'est la haine qui prend le pouvoir séparateur et qui rend les femmes très malheureuses. Donc, ce qui compte, c'est être deux, d'abord, puis ensuite la famille, puis ensuite le quartier, puis ensuite la culture.
Malheureusement, parfois, elles n'ont pas le choix, les femmes. Il y a des femmes seules qui n'ont pas leur mère, et que le père est parti, l'homme est parti, et elles sont seules avec les enfants.
Alors là, il y a une décision gouvernementale à prendre, une protection gouvernementale à prendre, parce qu'effectivement, là, ces femmes sont en grande difficulté, et les enfants dont elles s'occupent baignent dans un environnement en grande difficulté.
On retourne au standard où Olivier nous attend. Bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci pour la qualité de vos émissions et merci pour le débat de ce matin qui m'interpelle et merci de prendre ma question. Je suis un peu interpellé par l'idée de planifier la réussite par la performance. C'est un petit peu ce que j'entends au travers de vos discussions. Et je me demande un petit peu quel est l'objectif final. Qu'est-ce qu'avoir sa place dans la société? Est-ce que c'est d'être performant? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres dimensions importantes qui se vit dans le cadre familial, apprendre les relations sociales, apprendre un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la performance.
Bien compris, voilà, donc, Olivier.
C'est cette question qui m'intéresse.
Et elle est profonde, cette question. Merci de l'avoir posée à Boris Cyrulnik qui vous répond.
Alors, pour ma part, je pense que la réussite sociale est un bénéfice secondaire de la névrose. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de travailler 18 heures par jour, de renoncer à toute relation amicale ou affective, ce sont des névrosés, et vous votez pour eux. Moi aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que...
Parfois on est un d'eux. Hein.
Tout s'explique.
ça explique. Alors que nous, quand on emploie le mot... D'ailleurs, quand on emploie le mot réussite, c'est épanouissement. Épanouissement, c'est-à-dire, c'est lire, écrire, compter, aimer, s'engager dans une relation quotidienne. Et que ça n'est pas la réussite sociale. Et que aujourd'hui, un enfant, un illettré, est tout le temps malheureux. Donc la réussite pour lui, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Et l'affectivité, alors pour nous, le mot attachement est un mot scientifique. Il est neurologique, biologique, affectif et social. Donc on sait que maintenant, dans les théories de l'attachement, la réussite, c'est l'épanouissement d'un être humain.
On recevait il y a quelques jours la pédagogue Céline Alvarez à ce micro, Boris Cyrulnik. Elle pense que les exercices proposés aux tout-petits ne sont pas assez difficiles, qu'il faut qu'on sous-estime leurs capacités, qu'il faut les surstimuler avec des exercices plus difficiles. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
c'est le contraire de ce que font les pays d'Europe du Nord qui sous-stimulent les bébés. Ils les sécurisent d'abord, et une fois que les enfants sont sécurisés, une fois que tout est bien en place, c'est eux qui se stimulent. C'est-à-dire que c'est eux qui se mettent à l'épreuve, et les enfants d'Europe du Nord sont très en retard par rapport aux Asiatiques. J'étais au Japon, j'ai été invité au Japon. En Chine, il y a une surstimulation des bébés. Une minorité d'entre eux font des performances intellectuelles stupéfiantes, à un prix humain exorbitant. Suicide d'adolescents, psychopathie. Les garçons décrochent plus que les filles actuellement, au Japon, mais dans toutes les cultures. Mais au Japon, c'est énorme.
Donc vous dites l'important, le plus important, c'est de sécuriser l'enfant.
D'abord. Et une fois sécurisé, il va jouer à faire des performances. Et là, effectivement, il fera des performances. Un enfant peut très bien être en retard à 3 ans, ça n'a pas de sens. Il va rattraper son retard à 3 ans et demi, tellement il est plastique, ça n'a pas de sens.
Bénédicte est en ligne, le temps file. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Nicolas, merci pour vos superbes émissions avec Léa. Bonjour Monsieur Cyrulnik et merci de prendre ma question. Vous dites, je suis très émue.
Non, allez-y.
Vous dites que les deux premières années de la vie d'un bébé sont cruciales. Et donc c'est pour ça que je voulais en fait vous parler justement du congé parental dont vous avez parlé il y a quelques instants. Et par exemple, je travaille au Luxembourg, je suis travailleur frontalière. Nous avons un congé parental qui dure 6 mois et nous sommes payés à presque plein pot, disons. Alors qu'en France, le congé parental est d'environ, je crois, 400 euros par mois. Donc le choix des familles, je pense, est vite fait, malheureusement. Et le choix donc de laisser le bébé chez une nounou ou à la crèche est finalement presque inévitable, alors que la maman qui retourne au travail va payer pour finalement payer une nounou, donc y laisser son salaire. Donc je ne comprends pas en fait vraiment la logique dans tout ça, et j'espère que vos travaux vont vraiment travailler là-dessus.
Merci Bénédicte, merci Boris Cyrulnik, vous répond. Il y a une forte attente là, hein.
Oui, le congé parental, effectivement, ça sera certainement une décision majeure du gouvernement à la remise de notre rapport. J'espère que, pour l'instant, ce qu'on prépare, c'est que le congé parental renforcé socialement, c'est pas nous qui allons le faire. Nous, on va dire ce qu'on propose et le gouvernement disposera. Or, nous, ce qu'on va proposer, c'est de, pendant les 1000 premiers jours, sachant que ça commence à avoir la conception.
Oui, on a compris.
Premier regard.
Au premier regard. Donc, dès l'instant où un enfant est sécurisé, c'est une bonne affaire, et le congé parental sera un enjeu majeur de cette commission.
Vous, Boris Cyrulnik, vos 1000 premiers jours, c'était la guerre, vos parents contraints de vous abandonner dans une pension pour sauver votre vie. Juifs, ils mourront en déportation. Vous-même, vous allez échapper à une rafle. En quoi vos 1000 premiers jours ont-ils déterminé votre vie ?
Je pense que j'ai un énorme merci à dire à ma mère. C'est-à-dire que effectivement, mon père, je suis de la qualité d'avant-guerre, je suis né en 37, et mon père s'est engagé dans l'armée française dès 39. Mais à cette époque-là, les femmes sans hommes n'avaient aucun revenu. Et ma mère a été follement pauvre, puisqu'on vendait les objets sur les quais de Bordeaux. Mais je pense qu'elle m'a quand même sécurisé, puisque j'ai pratiquement pas été à l'école, et malgré ça, j'ai quand même gardé confiance en moi. C'était peut-être une forme de mégalomanie aussi, peut-être que...
Depuis qu'on a appris que la névrose était une bonne nouvelle, on prend la mégalomanie aussi. Merci, merci beaucoup Boris Cyrulnik d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Préparer les petits à l'école maternelle est publié chez Odile Jacob, et donc cette mission, 1000 premiers jours de vie, là où tout commence. Merci encore.